La nuit européenne des chercheurs 2023.
Margot Berger, bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis Margot, je suis en contrat de post-doctorat, donc c'est-à-dire en apprenti chercheur, en contrat d'apprenti chercheur. J'ai passé une thèse de biologie en décembre 2021 et je suis spécialisée en fait dans l'étude de la biologie des plantes.
Quel laboratoire ?
Je travaille dans le laboratoire écophysiologie génomique fonctionnelle de la vigne, à l'ISVV, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Je travaille aussi avec l'UMR Biogéco qui est à Cestas et je suis dans l'équipe du professeur Philippe Galussi qui travaille lui sur l'épigénétique de la vigne.
Concrètement, ta thématique de recherche, pour être plus précis, c'est quoi ?
Oui, je travaille sur l'épigénétique des plantes et plus exactement donc la mémoire cellulaire en fait des plantes. Nous, on s'intéresse à la mémoire des stress, donc par exemple la sécheresse ou le manque de nutrition. Et l'épigénétique, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des modifications dans l'expression des gènes qui sont héritables à travers les divisions cellulaires et qui ne sont pas expliquées par une modification de la séquence de l'ADN ou du génome. Dans chaque cellule, que ce soit des individus vivants, dans le vivant, on a ce qu'on appelle une information stockée, qui s'appelle le génome, qui est stocké dans le noyau de nos cellules. Sur cette information stockée va se rajouter ce que l'on appelle des marques épigénétiques, qui sont en fait des molécules qui vont se structurer autour de cette information stockée pour en faire une information organisée que l'on appelle la chromatine. L'organisation du génome va pouvoir définir son accessibilité à ce qu'on appelle la machinerie transcriptionnelle. Donc en gros, c'est des molécules qui vont permettre d'exprimer ou non des gènes. Donc en fonction de la façon dont la chromatine est repliée, on va avoir des gènes qui vont pouvoir s'exprimer ou non. C'est comme ça, par exemple, que nous, dans notre corps, on va avoir différents types cellulaires, des cellules de peau, des cellules musculaires, alors qu'on a le même génome dans toutes ces cellules-là, mais en fait, ce génome n'est pas organisé de la même manière, et donc les gènes ne s'expriment pas de la même façon, et donc on va pouvoir avoir différents types cellulaires. Moi, du coup, je travaille là-dessus chez les plantes, donc c'est la même chose, il y a différents tissus chez les plantes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces marques épigénétiques, elles peuvent être ajoutées ou enlevées de façon extrêmement labile suite à des réponses, en fait, à des variations environnementales. Donc c'est un processus qui se passe notamment lors du développement de la plante dans ces différentes phases de transition, de la graine jusqu'à la plante juvénile et puis jusqu'à la plante adulte. Mais les marques épigénétiques sont aussi des choses qui peuvent se mettre en place en réponse à des stimuli extérieurs, donc par exemple les stress, donc là voilà, comme je le disais, la sécheresse, ou un manque de nutrition, ou une attaque de pathogènes. Et du coup, moi j'étudie ces processus-là.
Est-ce qu'une plante, ça peut faire une crise d'adolescence ou pas ?
Une crise d'adolescence, c'est-à-dire ?
Je ne sais pas, là tu parles de plantes juvéniles, donc on imagine que le stress d'une plante, ça dépend peut-être aussi de l'âge qu'elle a.
En fait, je pense qu'effectivement, la temporalité du stress peut ne pas être internalisée de la même manière par la plante. Alors quand je parle de plantes juvéniles, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui se développent mais qui ne sont pas encore en âge de se reproduire. Et alors que quand on parle de plantes, on va dire adultes, c'est qu'elle est arrivée au moment en fait, où elle peut former par exemple des graines ou la future génération.
La thématique de la nuit des chercheurs cette année, c'est nos futurs.
Oui.
Qu'est-ce que ça peut t'inspirer par rapport à ta thématique de recherche ?
Je travaille donc sur la mémoire des stress chez les plantes. Et en fait, l'épigénétique, c'est quelque chose qui est encore très peu étudié, très peu connu chez les plantes. Il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les humains, les mammifères, etc. On s'est rendu compte que les stress qui sont subis par les plantes vont modifier leur épigénome, donc leur structure épigénétique, et que parfois, ces modifications peuvent influencer leur manière de répondre à leur environnement par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, des plantes qui vont subir un stress modéré, donc on va dire une sécheresse modérée, ou alors un taux de salinité un peu important dans le sol pendant une période réduite ou un certain taux, lorsqu'elles sont soumises à ces conditions-là et qu'on les laisse récupérer après, si elles sont soumises à un stress un petit peu plus fort, ces plantes-là vont montrer en fait des signes un peu de résistance, un peu comme si elles avaient été entraînées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait justement que cette forme de résistance pouvait être liée à la mise en place de ces marques épigénétiques au moment du stress. Donc en fait, moi je travaille sur l'étude des mécanismes derrière la mise en place de cette mémoire, donc c'est-à-dire la mise en place des marques épigénétiques et leur transmission à travers la division cellulaire. On essaye d'évaluer dans quelle mesure est-ce que ces modifications qui apparaissent pendant le stress sont transmises ou non. Et mon modèle d'étude, c'est la vigne. l'intérêt principal de ce modèle-là, c'est que c'est une plante qui se développe sur plusieurs années. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quelles sont les conséquences des stress qui sont subis pendant une saison, donc c'est-à-dire par exemple pendant l'été, quelles sont les modifications épigénétiques qui sont mises en place à ce moment-là si la plante subit un stress, et quelle est la proportion de ces marques qui éventuellement vont être transmises en fait l'année suivante, sur les bourgeons de l'année suivante. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que potentiellement ces processus-là, en les comprenant un petit peu mieux, en essayant de creuser et de mieux comprendre leur mise en place, leur transmission, ça peut représenter éventuellement un levier pour essayer de trouver des solutions aux problématiques actuelles en agronomie, c'est-à-dire le fait d'avoir des plantes qui sont plus résistantes à des changements environnementaux qui sont drastiques, voilà, le manque d'eau, la chaleur, etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de creuser un petit peu, de parfaire notre compréhension de ces processus-là pour voir s'ils peuvent représenter un levier intéressant dans l'amélioration en fait, des plantes et de leur résistance et leur tolérance au stress.
Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose un peu... Ouais. Pas imprévu, parce que l'imprévu, c'était l'année dernière.
Ben, en fait, j'y réfléchis. C'est pas simple, parce que l'épigénétique, c'est pas forcément quelque chose de très... c'est quand même beaucoup de travail en labo, de travail derrière un ordinateur. Donc, il n'y a pas vraiment d'anecdote un peu croustillante. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une branche de la biologie moléculaire qui est extrêmement... réduite en fait, en final, quand on dans la biologie des plantes. Et quand on fait de l'épigénétique, généralement, sauf si on est dans un gros labo où il y a beaucoup d'épigénétique, on est souvent des petites équipes réparties dans des petits labos. C'est extrêmement difficile en fait de discuter de ce qu'on fait avec les personnes autour de nous, même si généralement ils savent de quoi on parle, mais on peut pas vraiment débriefer. Comme ça. Et j'avais rencontré justement une série d'étudiants qui étaient un peu dans le même cas que moi. Et ce qui était assez drôle, c'était de voir quels étaient nos trucs et astuces pour partager notre travail et c'est de faire comprendre ce qu'était l'épigénétique à des gens qui n'en ont jamais entendu parler ou même encore à une personne de notre famille. Et du coup, c'était assez drôle. Moi, je sais que j'utilise deux comparaisons, on va dire. En fonction des personnes avec qui je discute, je compare souvent ça en fait à la musique, à une partition de musique, avec un thème principal qui va être modulé par des variations, donc avec une série d'accords différents. Et en fait, on va avoir une même mélodie, mais par contre avec des accords différents qui permettent de ressentir des choses différentes. Ou alors quelque chose d'un peu plus terre à terre pour les gens qui ne connaissent pas trop la musique et qui ne sont pas trop sensibles, c'est le tricot. Donc avec un seul fil de laine et quelques aiguilles, en fonction de la façon dont on replie le fil, on ne va pas créer les mêmes patterns. Et donc l'épigénétique, c'est un petit peu ça.
Quand tu bois un verre de vin, tu sais si la vigne a été stressée ou pas, toi?
Ah, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas œnologue, malheureusement, mais il y a peut-être des gens qui sont capables de le faire, mais moi, j'avoue que pas vraiment.
Mais merci beaucoup.
De rien. Merci à vous.
La Nuit européenne des chercheurs 2023.
Gauthier Simon, bonjour.
Bonjour.
Qui es-tu ? Pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Je suis là aujourd'hui car je suis doctorant en sciences politiques et on m'a proposé de participer aux rencontres européennes de la Nuit des chercheurs et je voulais faire un peu de vulgarisation scientifique par cet événement.
Quel est ton laboratoire de recherche ?
Alors mon laboratoire s'appelle l'Institut de recherche Montesquieu à l'Université de Bordeaux. C'est un laboratoire de recherche en sciences politiques et en histoire du droit.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thématique de recherche ? Qu'est-ce que tu fais ?
Oui, alors je travaille sur l'écologie, les processus de politisation. J'essaye de conceptualiser ce qui serait une conversion écologique en faisant une comparaison avec la conversion religieuse et de dire comment une grille de lecture religieuse peut nous aider à mieux comprendre certains phénomènes d'écologie contemporaine, notamment plus individuels et plus existentiels.
C'est le mot conversion qui t'a fait penser à ça ?
Oui, bien sûr. J'ai notamment travaillé dans le cadre de mon mémoire sur l'encyclique Laudato Si du pape François. Et donc, avec mon directeur de thèse, on a décidé de donner une version a-religieuse du concept de conversion pour essayer de l'appliquer à plus de militants écologistes.
Pour toi, c'est le même type de conversion alors ?
On essaye de trouver des analogies. Évidemment, il faut trouver les limites de la comparaison avec le religieux, mais on essaye de la pousser avec des entretiens de terrain, des récits de conversion qu'on analyse et on voit jusqu'où peut aller la limite de l'analogie religieuse et voir ce qui peut être pertinent.
Et en quoi c'est politique tout ça alors ?
En quoi c'est politique ? Ça, c'est les entretiens qui vont nous dire, c'est les enquêtés qui parlent, qui essayent de définir ce qui est politique pour eux à travers leur engagement politique, à travers leur vote. Et voilà, c'est le tout est politique qui est assez présent depuis quelques années.
Tout est politique aujourd'hui, mais aussi tout est écologique.
Oui, bien sûr. Donc, on va voir comment les deux se recoupent et s'il y a des différences, des digues à mettre entre tout est écologique et tout est politique.
Et tout est religieux aussi ou pas alors ?
Alors ça, les anthropologues pourraient dire que tout est religieux. Il y a peut-être des limites au religieux, car le religieux est quand même une substance. Après, on peut faire des analogies religieuses avec tout. Et voilà, on va essayer de voir ce que ça donne.
Tu nous as dit que tu avais fait aussi d'autres études avec la présence du religieux.
Oui.
Pourquoi ça t'intéresse, toi, ça, ces thématiques-là en particulier ?
Alors moi, j'ai été intéressé dans le cadre de mon mémoire de recherche par les liens qu'il y avait dans l'encyclique Laudato Si du pape François entre une forme d'anti-libéralisme économique et anti-libéralisme sociétal. Et c'était quelque chose qui était assez nouveau et qui a créé pas mal de renouveau chez les catholiques et dans le catholicisme. Et donc voilà, j'en ai fait mon sujet de mémoire.
Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, quelque chose qui était peut-être un peu incongru dans tes recherches ?
Dans mes recherches, pas trop pour le moment. Après, si j'ai une anecdote, c'est peut-être plus du niveau de l'enseignement. Je me souviens de mon premier jour de TD où voilà, je débarquais à l'Université de Bordeaux avec tous ces adjecos un peu partout. Et puis, j'ai mis longtemps à trouver ma salle. Et puis, à un moment, je trouve des étudiants amassés qui attendaient depuis quelques temps. Je leur demande « Bon, bah, vous avez cours ici ?»« Oui, bah, avec un certain Gauthier Simon. »« Bon, bah, c'est moi. On a cours ensemble. » Et c'est comme ça que j'ai donné mon premier cours. Et depuis, j'adore vraiment l'enseignement.
Qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement ? Transmettre ?
Oui, c'est transmettre et puis il y a quelque chose de l'incarnation dans l'enseignement qui est assez agréable quand vous êtes souvent seul sur votre terrain de recherche, parfois vous vous demandez à quoi ça sert ce que vous faites. Et bien là, quand vous avez des étudiants en chair en os devant vous, que vous essayez de leur transmettre quelque chose, un savoir mais aussi un savoir-être, c'est ça qui est assez valorisant dans l'enseignement et que j'aime particulièrement.
L'interaction peut-être aussi ?
Oui, bien sûr. L'interaction, leurs questions, les voir progresser. Là, j'ai vraiment de la chance d'avoir des étudiants sur toute une année. Alors que dans mes études, j'avais des enseignants qui changeaient tous les 6 mois. Donc c'est vraiment agréable de voir leur progression.
La thématique de la Nuit des chercheurs cette année, c'est nos futurs. Alors NOS, hein. Est-ce que ça t'inspire ?
Oui, ça m'inspire beaucoup puisque mon sujet de thèse essaye de s'intéresser au rapport au temps qui découle de la conversion écologique. Alors j'essaye de travailler avec un concept qui s'appelle les régimes d'historicité de François Hartog. C'est de dire comment avec la crise écologique on est passé d'un rapport au temps où le futur était optimiste, radieux. Donc ça c'est un héritage de la Révolution française et désormais avec cette catastrophe écologique, le futur est menaçant. Le futur est envisagé avec beaucoup de pessimisme. Et donc, c'est comment, dans un paradigme moderne, on disait que tout était optimiste, tout était radieux. Désormais, on envisage le futur avec plus de pessimisme. Et donc, c'est ce que j'essaye de saisir avec le concept de conversion écologique et qui, je pense, est en lien avec la Nuit des chercheurs.
Et toi, tu es optimiste ou pessimiste ?
Moi, j'essaye de garder l'espérance, voilà, l'espérance comme valeur. Alors, parfois, on perd espoir, mais j'essaye juste de garder l'espérance dans un rapport au monde et à l'avenir.
Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose ?
Non, je crois que c'est tout, je pourrais beaucoup parler, mais voilà, c'est déjà un bon début.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La Nuit européenne des chercheurs 2023.
Jonathan Visentin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, donc Jonathan Visentin, je suis professeur des universités, praticien hospitalier, et je travaille au sein du laboratoire Immunoconcept sur le site de Carrère, qui est une unité mixte de recherche, CNRS, également équipe d'accueil INSERM, et j'ai également des fonctions hospitalières, donc au sein du laboratoire d'immunologie et immunogénétique du CHU de Bordeaux.
Quelle est ta journée type, s'il y en a une ?
Alors, j'ai pas de journée type, parce que mon métier est très divers, étant donné que j'ai des fonctions d'enseignant, de chercheur et de praticien hospitalier. Je vais vraiment jongler entre mes activités à l'hôpital, l'encadrement des étudiants au niveau du laboratoire de recherche et aller donner des cours, par exemple l'après-midi, en médecine ou en master.
Qu'est-ce que tu préfères de ces activités ou alors c'est complètement complémentaire ?
Alors c'est très très complémentaire. Je dirais que ce que j'adore dans ce métier, c'est le fait d'interagir avec vraiment beaucoup de personnes différentes, des étudiants en début de cursus ou en fin de cursus, des chercheurs, des cliniciens, des techniciens au laboratoire. Donc vraiment l'interaction avec tout un tas de personnes aux compétences et qualités différentes. Et c'est ce qui fait la richesse du métier.
Est-ce que tu adaptes ton discours selon le public avec lequel tu travailles ?
Alors c'est très important puisque chacun part avec sa formation, ses connaissances. Donc en effet, on ne parle pas pareil avec un clinicien qui prend en charge le patient ou un technicien qui réalise des analyses ou un étudiant qui est en train d'apprendre son métier de futur chercheur.
Donc cette transmission quasiment immédiate en fait puisque tu travailles à la fois avec des professionnels et des étudiants. Comment tu la gères, cette transmission-là ?
Alors, ce qui est important dans cette transmission immédiate, c'est le fait d'être capable d'évaluer en effet si la personne que j'ai en face de moi comprend ce que je raconte ou comprend quelles sont les tâches à effectuer. Également être sûr que ceci va lui être favorable, va lui servir dans sa pratique ou dans son futur. Donc c'est vraiment être capable d'identifier quels sont les besoins de l'interlocuteur pour arriver au but désiré.
Au niveau de tes recherches, de ton travail de chercheur, qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Mon domaine, c'est l'immunologie et plus particulièrement l'immunologie de la transplantation et des greffes et également l'immunologie dans les déficits immunitaires. Alors moi, je m'intéresse particulièrement aux lymphocytes B. Ce sont des cellules du système immunitaire qui sont à l'origine de la production des anticorps. Hein. Donc on connaît tous ces anticorps. Ils sont bénéfiques pour nous protéger contre les infections, par exemple. Mais dans des contextes particuliers, comme ceux dans lesquels je travaille, en fait, ces anticorps peuvent être néfastes. Ils peuvent entraîner un rejet d'un organe qui a été transplanté. Ils peuvent attaquer le patient lui-même. Et donc, mon objectif, c'est de mieux comprendre comment ces lymphocytes deviennent pathologiques dans ces contextes pour trouver de nouveaux traitements.
Est-ce que tu avances ?
Non, ça, c'est une question difficile. En fait, la recherche, ça prend du temps. C'est une recherche sur le long terme. Si c'était facile, il n'y aurait plus de chercheurs, hein, puisque si on trouvait facilement, ce ne serait pas la peine.
Mais est-ce que ce n'est pas frustrant, ce long terme ?
Alors, c'est parfois frustrant, mais quand on arrive à quelque chose, c'est hyper valorisant. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine, il faut être tenace. Et en effet, je ne connais pas de chercheur qui aura tendance à abandonner à la première déconvenue arrivée.
On a un peu cette idée reçue du chercheur qui est un peu seul, qui avance dans la solitude du chercheur. Est-ce que tu considères toi plutôt que c'est quand même un travail de groupe, un travail avec des collègues, etc. Est-ce que chacun fait une petite partie, comment ça se passe ?
Mais tout à fait. En fait, un chercheur tout seul ne peut pas avancer, clairement. Enfin, en tout cas, pas dans mon domaine. Et donc, du coup, une équipe de recherche, c'est comme une équipe de rugby. Donc, on a les étudiants, on a les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs, le personnel administratif. Tout le monde travaille main dans la main avec ses compétences, ses fonctions. C'est ce travail d'équipe qui fait que la recherche avance.
Est-ce que tu as une anecdote justement avec tes collègues, quelque chose d'un petit peu incongru qui s'est passé ?
Je dirais, alors pas vraiment quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose qui est assez intéressant dans mon domaine, assez marrant, c'est que dans le domaine de la transplantation, il y a un système qui est très important, qui est le système HLA. En fait, c'est un groupe de molécules qui sont à la surface de nos cellules et qui font notre carte d'identité. Et donc, c'est très 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 divers, donc ce qui fait que tout le monde est différent schématiquement à ce niveau-là. Et ce qui est très marrant, c'est que à force de voir les typages HLA des gens dont on a besoin pour pouvoir faire les transplantations, eh bien on est capable de dire leurs origines géographiques. Ça, c'est assez marrant. Voilà.
HLA, c'est ça ?
Oui, c'est ça, le système HLA. Donc en gros, clairement, on est capable de dire tel ou tel patient, il est plutôt pas français, plutôt d'origine asiatique ou africaine ou Amérique du Nord, etc.
Et chaque patient a un HLA différent, ça ?
Alors, c'est très difficile de trouver deux personnes HLA identiques, moins que ce soit dans une fratrie.
J'ai un frère jumeau, moi, par exemple.
Alors, si c'est un frère jumeau monozygote, vous avez forcément le même typage HLA. Donc en fait,
on a le même.
Exactement. Donc dans la famille, on a en fait, parmi les frères et sœurs, une chance sur quatre de trouver quelqu'un qui est identique. Ceci est lié à la transmission du système. Mais si vous sortez dans la rue et que vous cherchez quelqu'un HLA identique avec vous, schématiquement, on dit en moyenne, on a une chance sur 1 million de le trouver.
La thématique de la nuit des chercheurs cette année, c'est nos futurs. Est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier ?
Alors, ça m'évoque que l'immunologie, c'est le futur. Non, sans chauvinisme, en fait, clairement, sur les 10-20 dernières années, il y a énormément de découvertes qui ont été dans le domaine de l'immunologie et qui ont aidé, notamment, un exemple très criant est à la prise en charge du cancer. Donc vraiment, l'immunologie n'a pas fini de nous surprendre.
Il y a eu le Covid aussi.
Alors le Covid, c'est entre la virologie, l'immunologie, mais clairement, sans système immunitaire, on ne peut pas se protéger contre la Covid. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu parler de tout ça à nos micros. À bientôt.
Merci, à bientôt.
La nuit européenne des chercheurs 2023.
Marlène Dulaurent, bonjour.
Bonjour.
Tu es venue ici à Radio Campus pour nous parler de quoi ?
Alors, je suis venue ici pour parler du projet de recherche que je dirige, qui a une petite particularité puisque je fais de la recherche-action avec la Gendarmerie nationale. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et je me suis spécialisée sur l'analyse de discours. Et je travaille pour la Gendarmerie nationale en essayant de comprendre dans les discours qu'il peut y avoir entre des victimes et puis des personnes mises en cause, si on peut déterminer des mécanismes de violence. Donc voilà le travail que je fais. C'est un projet de recherche qui s'appelle Cybernétique, qui existe maintenant depuis 5 ans et qui nous permet d'étudier tout spécifiquement les pratiques de cyberharcèlement. Et je dis bien les pratiques de cyberharcèlement parce que toute la difficulté, c'est de comprendre la diversité de ces mécanismes de violence qui sont implémentés dans les rapports entre les individus dès lors qu'ils sont en ligne.
Et qu'est-ce que tu remarques alors ?
Alors, je remarque plusieurs choses. Je remarque que jusqu'à présent, il y a eu plein d'amalgames, plein de confusions scientifiques, juridiques. C'est normal, c'est un phénomène qui est en totale émergence, mais il y a eu plein d'amalgames et de confusions. Et de fait, on n'a pas réussi jusqu'à présent à apporter de bonnes préconisations parce qu'on ne comprenait pas forcément de quoi on parlait. Donc, tout mon travail avec la Gendarmerie nationale a consisté à faire une étiologie, c'est-à-dire à analyser étape par étape, pratique par pratique, les détails qui pouvaient être implémentés dans ces mécanismes de violence. Essayer de comprendre s'il y avait par exemple des figures idéales typiques de victimes. Est-ce qu'il y avait peut-être des figures idéales typiques de mise en cause ? Est-ce qu'il y a des contextes qui s'y prêtent ? Est-ce qu'il y a des temporalités qui s'y prêtent ? Est-ce qu'il y a des canaux de diffusion qui se prêtent à ces pratiques de cyberharcèlement ? Et tout mon travail a consisté justement à aller dans le détail et à essayer de comprendre s'il y avait des patterns entre les différentes analyses que je pouvais faire. Et à ce jour, on a identifié plus d'une quarantaine de pratiques de cyberharcèlement où on identifie à l'intérieur des modes de fonctionnement bien singuliers qui s'opère sur les victimes.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir différents motifs pour exercer des pratiques de cyberharcèlement. Parfois, on peut le faire parce que il y a un triptyque très connu dans la criminalité qu'on retrouve en cyber, qui est celui de l'argent, du sexe et du pouvoir. Ça, forcément, ce sont des motifs que l'on va retrouver dans les pratiques de cyberharcèlement. Et puis parfois, on peut exercer des pratiques de cyberharcèlement par idéologie. Les complotistes, les discours de haine, l'extrême droite. Par exemple, lorsqu'elle tient des discours de haine, peut, par idéologie, en effet, exercer certaines pratiques de cyberharcèlement. Puis les trolls également. Alors les trolls, souvent, c'est un peu poreux, les trolls, parce qu'ils peuvent le faire par idéologie et puis ils peuvent le faire également plus la circonstance. À ce moment-là, voilà, on est venu polluer le forum, le débat, c'était plus la circonstance qui s'y prêtait, sans vraiment être si mal intentionné que ça. C'est juste susciter la polémique, on s'amuse de cela. Mais en effet, il peut y avoir des pratiques de cyberharcèlement qui, elles, vont sur un autre registre, beaucoup plus grave, et peuvent conduire des victimes à subir des préjudices terribles. Et des personnes peuvent se suicider.
Les réseaux sociaux sont souvent montrés du doigt dans ces cas-là, à juste titre.
Alors, forcément, quand on étudie le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, à un moment donné, vont être le vecteur de ces pratiques, puisque c'est un canal d'information, c'est un canal de transmission. Donc oui, les réseaux sociaux sont mis en cause, mais finalement, ce sont les personnes qui s'expriment qui sont incriminées. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'elles vont jouer des spécificités de ces réseaux sociaux, de l'éphémérité de l'un, de la géolocalisation que peut proposer l'autre. Elle va se jouer de la viralité, de la diffusion massive parce qu'il y a une certaine popularité sur ce réseau. C'est très complexe et à chaque fois, cela nécessite de prendre le temps de bien comprendre. Et c'est ce qui est la problématique qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est qu'on ne s'est pas posé pour essayer de comprendre.
C'est ce que tu fais, toi ?
Alors, j'essaye à mon niveau de le faire. Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses. En revanche, il y a eu tout un travail collaboratif avec des collègues gendarmes très investis, des chercheurs. Et on a essayé, en effet, d'apporter une contribution. Après, c'est toujours en mouvement. C'est la grande difficulté, c'est que les cybercriminalités vont beaucoup plus vite que la législation. Donc, chaque jour, on pourrait identifier un nouveau phénomène, un nouveau détournement d'un dispositif numérique. Les médias en ont parlé, là, il n'y a pas longtemps, sur le snooping, les AirTags qui permettent de géolocaliser un ex-conjoint ou conjointe parce qu'on va le déposer dans un sac, sous une plaque d'immatriculation. Voilà, qu'on va user à mauvais escient d'une caméra à l'entrée d'un bâtiment pour nous permettre de scruter qui rentre ou sort chez son ex ou voilà. C'est en fait il y a plein de nouvelles pratiques. C'est pour ça qu'il faut être en constante vigilance et on essaye nous à notre niveau de mettre en place une veille informationnelle et en créant des fiches techniques qu'on a mis sur notre site internet Cybernetic Project. Il y a des fiches
techniques.
Ça fait très
science-fiction. Hein. On se croirait dans Terminator, là.
Alors, quelque part, il y a un moyen mnémotechnique de retenir le nom de ce projet de recherche. En même temps, on fait référence, c'était un petit clin d'œil au mouvement scientifique. Et puis, dans un autre temps, c'est également une façon de gagner en visibilité. En fait, nous, notre enjeu, c'est un site où on peut télécharger gratuitement toutes ces fiches-là. On a le livre qui sort prochainement également, qui sera en open access. L'idée, c'est de pouvoir faire de l'éducation aux médias, à toute personne qui soit amenée à être en contact avec cet agir cybercriminel.
Le thème de la nuit des chercheurs cette année, c'est nos futurs. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Moi, ça m'évoque une image toute simple, celle de co-construire ensemble un numérique plus sûr. Je le verrai comme
c'est
ça.
C'est possible, ça ?
Je pense.
Un numérique plus sûr.
Je pense. Si on fait de l'éducation aux médias, je pense qu'en effet, on peut changer les représentations collectives et peut-être même avoir un impact sur les conduites et les conduites de surexposition et les conduites cybermalveillantes. Je pense qu'en effet, on peut réussir à conscientiser les gens sur leurs responsabilités et construire ensemble un numérique plus égalitaire.
Merci beaucoup, Marlène.
Merci beaucoup.
La Nuit européenne des chercheurs 2023.
Bonjour, qui es-tu ?
Bonjour, donc je m'appelle Aurélien Bustin, je suis professeur junior à l'Université de Bordeaux, donc professeur en imagerie cardiovasculaire, et je travaille entre le CHU de Bordeaux, le CHU Olévêque et l'Institut IHU Lyrique basé sur Pessac.
Qu'entends-tu par junior ?
Junior, en fait, c'est dans le cadre d'un nouveau système proposé par président Macron qui propose cette chaire professeur junior dont j'ai eu la chance d'être lauréat l'année dernière. En fait, c'est une transition avant d'être full professeur, d'avoir une tenure track en professeur à l'Université de Bordeaux.
Comment se passent tes journées type ?
Déjà, c'est un vrai plaisir d'aller au travail. On est une dizaine d'étudiants dans mon équipe et on a plusieurs expertises. Donc ma journée type déjà, c'est de parler avec les étudiants, regarder les différents projets et on va ensuite s'amuser avec l'intelligence artificielle, avec les séquences IRM, avec un petit peu de cardiologie également.
Tu dis s'amuser.
S'amuser, c'est un plaisir, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche appliquée aux patients. Donc tous nos projets cible vraiment nos patients, changer la vie des patients, améliorer leur diagnostic, leur prognostic, etc.
On a la chance à Bordeaux que tout soit à proximité. C'est assez simple finalement, on dirait, de faire ses études, non ?
Mais complètement. Et surtout dans le domaine de la cardiologie, on est vraiment les champions en France et en Europe. D'où ce plaisir de travailler avec des experts, que ça soit des cliniciens, des cardiologues, des radiologues, mais aussi des physiciens et des champions d'intelligence artificielle. Donc on a toutes ces thématiques réunies à l'IRIC et c'est là le vrai plaisir.
On a tendance à penser en France, parce qu'on se plaint beaucoup de tout, que tout va mal, mais finalement il y a quand même des filières, il y a quand même des zones d'excellence, non ?
Écoutez, dans notre domaine, en tout cas, on s'éclate. J'espère et je vois que tous mes étudiants aussi prennent plaisir à venir le matin travailler.
Vous êtes de nature optimiste ou pessimiste ?
Assez optimiste, de par peut-être mes voyages à l'étranger.
Alors, pourquoi à l'étranger ? Pour, dans le cadre de vos études aussi ?
Exactement. Donc, j'ai passé à peu près 10 ans à l'étranger. Il fallait que je quitte la France pour découvrir un peu plus sur la vie, sur la cardiologie également. Donc, 10 ans entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, où j'ai pu apprendre de la physique, la cardiologie et l'intelligence artificielle.
Le thème de la Nuit des chercheurs cette année, c'est nos futurs, NOS, futurs. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
En tout cas, dans notre domaine, on sait très bien où on se dirige. C'est à nouveau l'intelligence artificielle. On a besoin de cet outil pour transformer la radiologie d'aujourd'hui. Je vais vous donner plusieurs exemples. Nos radiologues passent trop de temps à analyser les images, à faire des cercles sur ces images pour localiser le cœur et en extraire les informations importantes. Les manipulateurs radio qui, eux, vont collecter les images du cœur passent trop de temps à planifier les scans, à se noyer dans des séquences. On en a plus d'une centaine. Et côté patient également. Nos patients, aujourd'hui, on leur demande trop d'apnée, si vous voulez. C'est plus d'une centaine d'apnée. C'est un examen qui dure entre 45 minutes et une heure. C'est inacceptable. Et l'intelligence artificielle va tout changer. On va pouvoir faire des acquisitions rapides de moins de 30 minutes. Nos radiologues vont pouvoir se concentrer sur des cas un peu plus difficiles et arrêter de faire ces cercles sur les images, juste pour vous donner quelques exemples.
L'intelligence artificielle est souvent montrée du doigt ces derniers temps. Est-ce que ça va supprimer des emplois dans votre secteur ?
Certainement pas. Ça va aider nos radiologues. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, en 2023, nos radiologues passent 5-6 heures de leur temps à, une fois de plus, dessiner des cercles sur des images. C'est inacceptable. Il faut remplacer ça, il faut l'automatiser, il faut le rendre plus rapide, plus efficace, plus robuste. Donc non, l'intelligence artificielle ne nous fait pas peur, il faut l'embrasser justement.
Quel horizon ? Est-ce que c'est à court terme, long terme ?
C'est prêt. En tout cas, à Bordeaux, on est en train de tester ces technologies en clinique directement chez nos patients. Et dans 3 ou 4 ans, ça sera utilisé en routine clinique tous les jours.
Est-ce que tu as une petite anecdote un petit peu croustillante, quelque chose qui te revient là si je te pose la question par rapport à ce que tu as pu voir, entendre, vivre ?
En fait, c'est peut-être pas une anecdote, mais on voit, nous en tant que chercheurs, on voit l'impact de notre science, de nos technologies directement en clinique tous les jours. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, on avait un patient où on reçoit les images IRM et on a des doutes, d'accord ? On a deux radiologues en général, un radiologue expert et un jeune radiologue, et c'est en général le jeune radiologue qui va commencer à préparer le rapport, le diagnostic, et on se rend compte que le jeune radiologue a des doutes, d'accord ? Et ça, c'est un problème vraiment pour le diagnostic du patient. Et c'est là où nos technologies d'imagerie interviennent. Donc, quand le radiologue a un doute, on va utiliser nos technologies. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a un débat entre le jeune radiologue et l'expert. Et c'est vraiment la nouvelle technologie qui va démarquer. Parce qu'avec cette nouvelle technologie, on va pouvoir, par exemple, mieux visualiser une lésion cardiaque. Donc, c'est une petite anecdote, mais qui, nous, en tant que chercheurs, nous fait plaisir parce que notre technologie va faire la différence dans le diagnostic de nos patients.
Merci beaucoup d'être venu évoquer tout ça à Radio Campus.
Merci.
La Nuit européenne des chercheurs 2023.